Bonjour à tous. La situation alarmante des minorités ouïghours en Chine est connue, dénoncée par de nombreuses ONG. Mais nous allons voir qu'en France aussi, ces minorités font parfois l'objet d'intimidation de la part des autorités de leur pays d'origine. C'est en effet ce que montre votre enquête, Nathanaël Charbonnier. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous allez donc nous expliquer ça et puis nous recevrons la médiatrice de Radio France, Emmanuelle Davier. Et avec elle, nous répondrons à vos interrogations sur les enquêtes que nous avons récemment diffusées. Et notamment celle sur Ségolène Royal qui apparemment vous a fait beaucoup réagir.
France Inter, secret d'info, Jacques Monin.
Ce sont des documents internes au Parti communiste chinois qui sont parvenus au Consortium international des journalistes d'investigation. Authentifiés par des experts, ils confirment pour la première fois l'internement massif de Ouïghours. On estime qu'un million de Ouïghours y sont contraints à abjurer leur foi.
Voilà, ça c'était en novembre dernier sur la chaîne Arte, le Consortium international des journalistes d'investigation et 17 médias viennent de publier des documents accablants sur l'existence de camps dans lesquels sont enfermés des membres de la minorité ouïghour en Chine. Mais on va voir qu'en France aussi, ces minorités sont parfois surveillées et même intimidées. On va le voir avec vous, Nathanaël Charbonnier. Mais d'abord, en quelques mots, expliquez-nous, les Ouïghours, c'est quoi ?
Alors, le peuple ouïghour est un peuple qui vit à l'ouest de la Chine, dans le Turkestan oriental, qui est devenu le Xinjiang. C'est une terre riche avec du pétrole. C'est donc une zone stratégique qui se trouve en plus à un carrefour avec 8 autres pays, dont l'Afghanistan, la Russie ou encore le Tibet.
Alors ça, c'est pour la géographie. Maintenant, un mot de leur culture.
Alors, les Ouïghours sont un peuple turcophone et musulman de culture, c'est-à-dire que la majorité est musulmane. Mais vous avez aussi des Ouïghours chrétiens, d'autres athées, d'autres encore sont laïcs.
Et donc, ils font l'objet de persécutions.
Oui, de très nombreux Ouïghours sont enfermés dans des camps. On estime à plus de 1 million ceux qui seraient ainsi privés de liberté et à plusieurs millions le nombre d'opprimés. Et dernièrement, les documents dont vous faisiez état montrent la volonté d'écraser les Ouïghours et que cette volonté a été décidée directement par le président Xi Jinping.
Oui, on va voir pourquoi dans quelques instants, mais avant cela un mot aussi des Ouïghours en France cette fois-ci. On a une idée de leur nombre.
Alors en France, c'est une petite communauté, on estime à 1 000 000 leur nombre contre 10 000 en Europe. Ce sont essentiellement des étudiants. Une vingtaine d'entre eux auraient pris la nationalité française, mais les autres ont conservé la nationalité chinoise.
Et chez nous aussi, donc, ils ont des soucis avec Pékin.
C'est rien de le dire. Vous savez, rien que pour obtenir des interviews, ce n'est pas facile. Il y a une vraie peur de parler. Certains refusent, d'autres préfèrent changer de prénom. Et c'est d'autant plus impressionnant que nous sommes à des milliers de kilomètres de la Chine.
Et pourquoi cette crainte alors ?
Eh bien parce qu'ils se sentent très surveillés. Et ils en veulent pour preuve une multitude de faits étranges. Écoutez par exemple Soubi. Il est donc Ouïghour, il vit en France. Et pour lui, les problèmes ont commencé en 2018, lorsqu'il a manifesté à Paris pour défendre son peuple.
Dès que j'étais élu un membre de l'association des Ouïghours de France, ils ont envoyé un petit collier. Dans le collier, ils ont écrit un petit mot sur un papier, les lettres en chinois. Ça m'étonne beaucoup parce que mes parents, ils m'ont jamais écrit en caractère chinois plutôt.
Ils écrivent comment d'habitude ?
En langue Ouïghour.
Ah oui, donc lui pense que ce colis ne viendrait pas de ses parents. Mais alors, il signifierait quoi ce colis ?
Eh bien, ce serait un moyen pour Pékin de faire passer un message, de dire aux Ouïghours qui vivent en France, on vous surveille, on sait ce que vous faites, et on vous rappelle que cela peut avoir de l'importance pour vos proches qui, eux, sont en Chine. On peut l'interpréter comme une menace parce que savoir que vos agissements peuvent avoir une conséquence sur ceux que vous aimez et qui se trouvent à des milliers de kilomètres, c'est psychologiquement très dur à vivre.
Ouais, le message est d'autant plus clair que ces colis, eh bien, ils n'arrivent pas par la poste.
Non, ils passent souvent par un canal très officiel. Écoutez à ce sujet, Adil, lui aussi est Ouïghour, lui aussi vit en France, et il nous explique comment l'ambassade de Chine se transformerait en bureau de poste pour tenter d'attirer dans ses locaux de nombreux Ouïghours.
La majorité des Ouïghours, ils ont déjà reçu de téléphone une dame chinoise. Par téléphone, ils ont dit « Vous avez un collier pour récupérer, pour aller au ambassadeur de Chinois. » Je ne suis pas allé au ambassadeur chinois parce que j'ai peur. Donc je crois qu'il y a peut-être 100% de Ouïghours en France. On a tous reçu ce message.
ce message d'aller à l'ambassade.
D'aller à l'ambassade pour récupérer de colis.
Mais quel intérêt pour l'ambassade de servir ainsi de bureau postal ?
Eh bien, le colis n'a aucune importance, vous savez. Si l'on en croit les témoignages, c'est surtout une sorte d'appât qui a pour objectif d'attirer les Ouïghours et opposants supposés dans les locaux de l'ambassade.
Et pourquoi ?
Eh bien, parce que selon Adil, en tout cas, cela permettrait de les photographier, de les tracer et de leur poser des questions sur leurs activités, ce qu'ils font, qu'ils voient, etc., etc.
Cette manière de procéder, elle serait courante ?
Oui, et une des personnes qui peut en parler s'appelle Dilnur Rehan. Elle est sociologue, elle est d'origine ouïghour, enseignante à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Elle connaît parfaitement les méthodes utilisées par la Chine contre le peuple ouïghour.
Certaines personnes, simplement, ils sont appelés par la famille pour leur demander des informations sur leur adresse. Pour d'autres, c'est directement la police locale qui les contacte. Ou encore, la police locale, elle menace la famille et que c'est la famille qui contacte la personne pour lui supplier d'envoyer les documents demandés par la police locale.
Mais de quels documents elle parle là ?
Les documents sont de plusieurs types selon elle, papier d'identité, titre de séjour et puis il est demandé parfois aussi des photos très scénarisées.
C'est-à-dire ?
Eh bien, on demande aux Ouïghours de se prendre en photo devant un monument reconnaissable, genre Tour Eiffel à Paris, avec dans ses mains son passeport en règle pour montrer aux autorités chinoises eh bien, que vous habitez bien là où vous prétendez et surtout pour prouver que vous n'êtes pas réfugié ou demandeur d'asile. Car être réfugié ou demandeur d'asile, cela implique immédiatement que vous êtes devenu un ennemi de l'État chinois.
Et pour faire pression, il existe aussi d'autres moyens.
Oui, et un moyen radical, c'est de s'attaquer directement à vos proches qui sont restés en Chine. Toujours avec l'arme de la peur, amis les réfugiés naturalisés français, on pourrait imaginer qu'il est serein, mais en fait pas du tout, car il ne peut pas rentrer chez lui et il sait que sa famille est en danger.
Après mon départ, mon père, il a eu un emprisonnement de 3 mois pour savoir où je suis parti et quand je dois revenir. Du coup, à partir de cette date-là, je n'ai jamais possibilité de rentrer. J'ai essayé 2 fois d'avoir un visa en tant qu'une Française de rentrer chez moi pour voir ma famille, mais on m'a refusé 2009 une fois et 2013 une deuxième fois.
Et ces refus de visa, ils sont fréquents ?
Eh bien, c'est en tout cas ce qui ressort de tous les entretiens que j'ai eus, mais ce genre de méthode est aussi évoqué par des acteurs qui ne sont pas directement concernés. Emmanuel Linco, par exemple, est professeur à l'Institut catholique de Paris et sinologue, et il ne dit pas autre chose. Intimider, selon lui, est devenu la règle.
Il y a manifestement de plus en plus d'intimidations adressées à l'encontre de ressortissants ouïghours sur le territoire français. Intimidations qui se traduisent par des menaces en règle contre ces ressortissants et leurs familles restées au Xinjiang. Et c'est une façon, évidemment, de créer une sorte de climat de terreur, en définitive. L'Union soviétique ne faisait pas autrement.
Bon, mais pourquoi, Nathanaël ? Pourquoi surveiller et intimider des gens qui sont aussi peu nombreux, qui sont si loin de chez eux et qui finalement ont peu de pouvoir d'influence ?
Alors, pour le comprendre, il faut savoir que la Chine se méfie des religions et que les Ouïghours sont de culture musulmane, avec un effet pervers. D'un côté, les Chinois oppressent les Ouïghours parce qu'ils sont majoritairement musulmans, et de l'autre, face à l'oppression, certains Ouïghours sont tentés de se radicaliser. C'est ce que relève encore le chercheur Emmanuel Linco.
Il y a un risque terroriste très important en Chine et une radicalité qui s'est exprimée notamment à travers la voix des radicaux membres de l'ETIM, donc un groupe terroriste ouïghour radicalisé qui s'est exprimé en 2016 notamment dans le choix, je cite, de déclarer une guerre sainte contre la Chine. Et ça, évidemment, et non sans raison, les dirigeants chinois ne le prennent pas à la légère.
Ouais, ils ne le prennent pas à la légère. Maintenant, ce qu'on peut remarquer, Nathanaël, c'est que ce type d'intimidation qu'on a identifié, il ne s'applique pas qu'aux Ouïghours.
Non, il s'applique aussi aux Tibétains. On pourrait croire que la personnalité du Dalaï Lama, prix Nobel de la paix en 1989, les protège un peu et que le temps a fait son œuvre. Je vous rappelle que les Chinois ont envahi le Tibet en 1950. Eh bien, détrompez-vous, les autorités chinoises continuent d'être attentives aux moindres mouvements de la communauté tibétaine en France. Je vous présente Tenam. Il est tibétain et activiste. Il connaît les méthodes supposées chinoises pour dissuader les Tibétains de manifester en France et il nous en décrit quelques-unes.
C'est vraiment simple. À la fois, c'est juste, par exemple, présence d'une personne asiatique pendant nos manifestations que personne ne connaît, mais qu'il a un appareil photo, qui prend votre photo pendant 15 minutes et il part. Et deuxièmement, il y a des pressions plus administratives. La dernière fois, il y avait un ami à moi, donc il est passé à l'ambassade de la Chine pour demander un visa pour aller au Tibet. Et donc c'était vraiment simple. Il y a des questions comme, est-ce que vous connaissez le congrès des jeunesses tibétains? Dans des questions comme ça, il y a des Tibétains qui peur aujourd'hui de participer dans des événements tibétains, dans des manifestations tibétains, même ici à Paris.
Et donc ce serait une façon de contrer, d'étouffer hein, en fait tout activisme de la part de ces Tibétains. Mais ces personnes dont il parle, Nathanaël, et qui les prendraient en photo, c'est qui ?
Eh bien dans son esprit c'est clair, il s'agit d'agents chinois qui viennent collecter du renseignement sur qui manifeste, qui est opposant, quels sont les leaders. En France, on soupçonne par exemple une annexe de l'ambassade de Chine basée à Chevilly-Larue dans le sud de Paris de se consacrer à ces missions d'information. Écoutez le sinologue François-Yves Damon, historien et auteur pour le Centre français de recherche sur le renseignement. Il nous explique selon lui comment la Chine surveille ses ressortissants à l'étranger.
Elle utilise les moyens de ses services de renseignement, c'est-à-dire essentiellement des gens qui travaillent pour le ministère de la Sécurité d'État, Guo Hanbu. D'après les Canadiens, il y aurait environ 200 000 agents chinois travaillant à l'extérieur de la Chine. En France, quand je travaillais pour la DGSE, on me disait de toujours faire attention aux journalistes, parce que l'agence Xinhua, souvent, c'est du déguisement pour des agents de renseignement. Il y a même une blague qui court quand on dit que nous, les Occidentaux, nous parlons de recherche et développement et que les Chinois, en souriant, disent « nous, c'est recherche, développement et espionnage ».
Ouais, donc il y aurait de nombreux agents chinois chez nous. Maintenant, Internet permet aussi d'espionner ses ressortissants, et cette fois-ci depuis l'extérieur, donc depuis la Chine.
Absolument. Et là, on entre vraiment dans des méthodes qui n'existaient pas il y a encore quelques années. Ce sont les réseaux sociaux, les applications de communication. Vous avez notamment WeChat, qui est une sorte de WhatsApp qui permet d'échanger des messages. Vous avez aussi TikTok, qui est une sorte d'Instagram, Facebook, qui permet d'envoyer des vidéos. Ce sont les applications les plus utilisées par les Chinois. Autre particularité, ces applications sont développées par des groupes chinois. Et donc, cela crée une crainte que les informations collectées puissent être exploitées par les autorités chinoises. Conséquence, quand on est réfugié en France, on évite, comme l'explique Tenam, de les utiliser.
Aujourd'hui, je suis très très prudent par rapport à comment j'y utilise mon portable, par exemple. J'ai jamais installé l'application WeChat. J'ai jamais utilisé toutes ces applications comme application vidéo TikTok. Toutes ces applications qui sont créées par une industrie ou une entreprise chinoise, moi, je ne les utilise pas. Car je connais plein des exemples quand les Tibétains ils ont utilisé WeChat pour envoyer quelques messages ou une photo de Dalai Lama qui se trouve aujourd'hui dans la prison.
Ouais, donc lui fait attention à son téléphone portable. Maintenant, ce qu'on vient de décrire au sujet des Ouïghours ou des Tibétains, on le retrouve aussi aujourd'hui avec les Hongkongais.
Et c'est cela qui est vraiment intriguant, car nous parlons de communautés qui ont peu de liens entre elles, mais l'on retrouve les mêmes méthodes. Photos lors des rassemblements, colis à venir chercher à l'ambassade, messages des familles restées au pays, mais aussi pression de la communauté chinoise en France. Voici Kenneth. Il vient de Hong Kong où depuis 6 mois, les jeunes tentent de défendre la démocratie et s'affrontent au pouvoir chinois. Or, assez rapidement, lorsqu'il est arrivé en France, Kenneth a remarqué qu'une partie de la diaspora chinoise, c'est-à-dire les Han, eh bien cette diaspora n'était pas forcément bienveillante à son égard.
Pendant ma première année ici, pour mon apprentissage de français, ce moment-là dans les cours de la langue, je rencontrais un groupe de Chinois très jeunes, je pense. La première question qu'ils m'ont posée, vous êtes Chinois ? Je dis juste, je viens de Hong Kong, c'est très naturel, je réponds comme ça. Et puis, ils m'ont regardé un petit peu bizarrement. Et puis, après ça, j'étais boycotté pendant un semestre par ce groupe-là.
Oui, boycotter, bon, cela dit, Nathanaël, c'est pas tout à fait la même chose hein, d'être boycotté que d'être sous surveillance ou avoir sa famille menacée.
Oui, mais c'est un tout, c'est une pression globale. Quand vous n'osez pas aller manifester par peur d'être repéré, quand vous recevez des appels étranges, quand vous vous méfiez de vos collègues étudiants, cela prend une autre dimension.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Alors maintenant qu'on a vu comment les minorités chinoises, qu'elles soient ouïghours, tibétaines ou hongkongaises d'ailleurs, font l'objet d'une surveillance, voire de pression en France, eh bien on va parler d'une institution que certains exilés soupçonnent d'être aussi un outil de surveillance de Pékin, Nathanaël Charbonnier. C'est ce qu'on appelle les instituts Confucius.
Oui, la Chine possède plus de 500 instituts Confucius dans le monde, dont une petite vingtaine en France. Ces instituts sont censés enseigner le chinois et faire découvrir la culture chinoise, la calligraphie, la peinture, la céramique ou encore le tai chi, cet art martial traditionnel. Cela ressemble à nos alliances françaises qui, elles aussi, sont dispersées dans le monde pour faire découvrir la culture française. Ces instituts sont souvent proches des universités et naissent généralement d'une volonté locale. C'est ainsi que le dernier né a ouvert ses portes à Pau en septembre dernier.
Ouais, donc sur le papier, tout ça paraît très bien. Sauf que certains de ces instituts ont eu quelques soucis ces derniers temps.
Oui, en Belgique, un universitaire chinois a été privé de visa pour atteinte à la sûreté de l'État. Il est désormais interdit de séjour dans 26 pays de l'espace Schengen. On lui reproche d'avoir servi de recruteur pour les services secrets chinois. En Angleterre, les parlementaires, dans un rapport, s'inquiètent de l'attitude de membres de l'Institut Confucius qui interdisent de mentionner Taïwan dans les conférences organisées. On les soupçonne aussi d'infiltrer les universités anglaises. Aux États-Unis encore, un rapport sénatorial émettait les mêmes critiques, si bien que certains instituts ont dû fermer ou vont fermer leurs portes, comme ceux de Chicago ou de Boston.
Et en France ?
Eh bien en France, en revanche, on semble ne rien voir de problématique. Il y a bien eu un centre fermé à Lyon en 2013, après une polémique du même type. Mais pour le reste, on continue à en ouvrir, ce qui inquiète Thénam, le réfugié tibétain.
Il y a quelques semaines, on a entendu qu'est-ce qui s'est passé en Belgique avec l'Institut Confucius. Et en France, on est en train d'ouvrir un nouveau Institut Confucius. Qui, moi, je trouve ça hallucinant. C'est pur et net, c'est un organe de propagande qui éteint nos libertés d'expression, nos libertés intellectuelles. Car par exemple, quand on ouvre un Institut Confucius, on ne peut pas parler de Taïwan, on ne peut pas parler de Tibet, on ne peut pas parler de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Turkestan oriental.
On ne peut pas parler des minorités dans ces instituts. C'est vrai ça, Nathanaël ?
Alors, c'est plus nuancé que cela. Le sujet semble déranger en tout cas. J'ai posé la question à Jean-Pierre Raffarin, grand défenseur de la Chine en France, mais il n'a pas souhaité répondre. J'ai alors rencontré Blaise Thierry, c'est le directeur de l'Institut Confucius de Bretagne. Il est français et lui explique que l'on peut tout dire, mais qu'il ne s'agit pas pour autant de faire du prosélytisme, ni dans un sens, ni dans l'autre.
On fait bien attention, nous, à être une tribune politique pour personne. Personne, ça veut dire pas plus le Parti communiste chinois que des militants pour telle ou telle cause. Ça veut pas dire qu'on a une censure qui est exercée, puisque nous, notre programme d'activité, c'est quelque chose qui est décidé au sein du conseil d'administration. On a pu parler du Tibet, on a pu parler des problèmes sociétaux d'une manière générale, on a des cycles documentaires, on accueille des écrivains, des gens qui sont parfois pas publiés ou contestés ou pas diffusés en Chine. Donc je suis certain, on n'a aucune censure qui nous est posée par rapport à des contenus qu'on proposerait, mais on fait aussi attention, de la même façon qu'on ne fait pas de la propagande du gouvernement chinois, on va pas non plus faire de manière équilibrée, on va pas non plus faire une propagande qui serait pour tel ou tel partisan. Je pense par exemple à Falun Gong, qui a des réseaux très puissants et qui sont présents et qui ont un discours à opposer.
Alors Falun Gong, on va préciser, Nathanaël.
Alors le mouvement Falun Gong est un mouvement philosophique qui allie méditation et mouvement lent. On peut parfois voir pratiquer des membres de ce mouvement dans la rue par petits groupes en France. Or, Falun Gong est pourchassé en Chine.
Et donc indésirable. Alors maintenant, pour revenir à la France, Nathanaël, ce que vous avez constaté aussi, c'est qu'il n'y a pas que les minorités chinoises qui font l'objet d'intimidation.
En effet, sont aussi concernés certains chercheurs français spécialistes de la Chine. Eux aussi semblent faire preuve d'une attention particulière. Marie Holzmann est sinologue, présidente de l'association Solidarité Chine, qui a été créée au lendemain du massacre de Tiananmen en 1989 et dont le but est de conserver la mémoire de ce qui s'est passé. Or, tout comme les minorités dont nous avons parlé, Marie Holzmann, elle aussi, se sent surveillée.
Moi-même, j'ai été victime de mesures d'intimidation. Il se trouve que je devais aller témoigner devant le Bundestag à Berlin l'année dernière et parler de la situation au Xinjiang et de la répression contre les Ouïghours. Et un jour, quelqu'un a pénétré chez moi. Je n'étais pas chez moi à ce moment-là. Il a été apparemment très attentif. Il y avait une porte qui était mal fermée. C'est vraiment ma faute, hein. Il est entré et il a délibérément allumé toutes les lumières, ouvert des tiroirs, ouvert des coffrets. Et il est reparti. Il n'a touché à rien. Il n'a rien pris. Mais il a voulu montrer à mon voisinage, qui évidemment a vu et a un peu paniqué, parce que tout ici on se connaît tous les uns les autres, qu'on m'avait à l'œil.
Ouais, alors on va quand même préciser que rien ne prouve qu'il s'agisse d'une commande chinoise, c'est pas établi, de même que rien ne prouve d'ailleurs que l'ambassade de Chine à Paris ait quelque chose à voir avec ces intimidations qu'on vient d'évoquer.
Non, on est toujours dans cette frontière un peu trouble. Cela dit, on sait que certains chercheurs sont prudents dans leur critique de la Chine, car les autorités chinoises possèdent une arme redoutable, celle de l'obtention des visas.
Ouais, ce qui nous ramène toujours à ce lieu qui semble clé quand même, qui est celui de l'ambassade de Chine à Paris.
Oui, vous vous souvenez, c'est là que les dissidents et autres minorités sont convoqués par téléphone pour venir chercher des colis. C'est là aussi que l'on se déplace pour toutes les formalités administratives. Et c'est là que travailleraient de nombreux Chinois directement en lien avec le Parti communiste chinois, comme l'explique le spécialiste du renseignement François-Yves Damon.
L'ambassade de Chine est subordonnée au département du Front Uni, qui a rang de ministère. Et c'est le département du Front Uni qui va dire à l'ambassade les domaines dans lesquels elle peut et doit intervenir. Par exemple, quand on vous dit ne pas publier, ne pas diffuser une émission, ne pas publier un article, faire supprimer des passages du film de Ai Weiwei en Allemagne, par exemple. Ça, c'est le travail de l'ambassade. C'est un travail de surveillance, censure, intimidation.
Mais alors pourquoi, Nathanaël, pourquoi la Chine aurait besoin d'espionner des opposants aussi peu nombreux et aussi loin de chez eux, aussi peu influents, comme on l'a dit ?
Alors, première explication possible, le régime chinois veut ainsi montrer à son peuple qu'il est puissant. La Chine, ce sont 1 milliard de Chinois, 100 millions de communistes et un leader qui se veut incontesté, selon la sinologue Marie Holzmann.
Je pense que Xi Jinping a pris une dimension historiquement inégalée. Il est maintenant, je crois pouvoir dire, encore plus un dirigeant totalitaire que ne l'a été Mao Zedong. Et Xi Jinping a une obsession maintenant qui domine la Chine, ça c'est sûr, il veut dominer le monde. Donc ce qu'il ne veut pas entendre, c'est que son système est mauvais.
Et donc elle pense qu'il est tout puissant et que cette toute puissance donc ne pourrait supporter la moindre note discordante. Maintenant, il y a une autre façon de voir les choses.
Effectivement, il y a aussi ceux qui pensent que si les autorités chinoises sont autant sur leur garde, c'est au contraire parce que le régime n'est pas aussi fort qu'il veut bien le laisser croire. Pour la sociologue Dilnour Rehan, ce serait même un aveu de faiblesse.
Le régime chinois, il se sent tellement faible qu'elle est obligée d'intimider. Les quelques cents Ouïghours, en plus, ce sont souvent des étudiants, et que la Chine, elle craigne ces personnes-là, qu'elle devienne activiste. C'est toujours la peur d'un avenir qui sera menaçant pour le régime.
C'est pour ça qu'elle ne laisse rien passer ?
Exactement.
Alors ça, c'est pour son analyse. Et du côté de l'ambassade de Chine, Nathanaël, on en dit quoi ?
On rappelle tout d'abord que l'égalité et l'unité de toutes les ethnies constituent la politique fondamentale du pays. L'ambassade n'a pas souhaité répondre à nos questions, mais elle a envoyé toutefois un courrier dans lequel elle nous demande de parler de la Chine avec le plus d'objectivité et de neutralité possible. Toujours dans ce courrier, il est demandé de ne pas diffuser cette enquête au nom des relations sino-françaises qui sont aujourd'hui au beau fixe.
Ce qui témoigne d'une idée assez particulière tout de même de la démocratie et de la liberté de la presse. Bien, merci Nathanaël Charbonnier pour cette enquête réalisée, je le précise, en collaboration avec la rédaction internationale de Radio France. Je précise qu'on peut la réécouter, votre enquête, la lire ou la podcaster sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Vous pouvez aussi nous y laisser vos commentaires, tout comme vous pouvez le faire sur la page Facebook de la cellule Investigation de Radio France ou encore sur Twitter Investigation RF. Mais surtout, restez avec nous dans quelques instants. Les questions qui se posent sur nos enquêtes, questions que vous vous posez avec la médiatrice de Radio France.
Fresh honey, I'm the Milky Bar kid. Soiled trousers, shiny cheekbones like graveyards in the sun. Murder shoes, dirty eyes sizing up. Just don't say it. Sleepless angels have blessed us. And I'll shout you down in a slumlord way. Scary people saying silly shit.
Ça a tout d'un hommage à David Bowie avec une ligne de basse qui rappelle Let's Dance. C'était Slumlord, extrait du dernier album du chanteur britannique Baxter Dury, dont la sortie est attendue pour mars prochain.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Et nous recevons maintenant la médiatrice de Radio France, Emmanuelle Davier, bonjour.
Bonjour Jacques Monin.
Ça fait plaisir de vous voir, ça faisait longtemps que vous n'avez pas vu dans Secret d'Info. Alors on va bien commencer cette nouvelle année, on va répondre aux questions que les auditeurs se sont posées sur les enquêtes que nous avions réalisées l'année dernière et une enquête en particulier, parce que c'est vrai que sur la fin d'année, il y en a une qui a plus particulièrement fait parler.
Oui c'est vrai, c'est l'enquête qui concerne l'ambassadrice des pôles, Ségolène Royal. Nous avons reçu de nombreux courriers, essentiellement adressé à Sylvain Tronchet, l'auteur de cette enquête. Une auditrice nous adresse ce message. Bravo pour votre travail, mais pourquoi avez-vous consacré une enquête à Ségolène Royal ?
Alors, on a consacré une enquête à Ségolène Royal parce que, un journaliste ne donne pas ses sources, mais parce que nous avions toutes les raisons de penser que des questions se posaient autour de l'utilisation qu'elle faisait des moyens qui lui étaient alloués par le Quai d'Orsay, des moyens en personnel, moyens également financiers, puisque nous avions donc expliqué qu'une enveloppe de 100 100 000 euros lui étaient alloués. Ça ne veut pas dire qu'elle a utilisé toute l'enveloppe, mais en tout cas, l'enveloppe, elle, lui a bien été allouée, ce qui était quand même beaucoup plus que ce à quoi avait droit, par exemple, son prédécesseur, Michel Rocard. Et à partir du moment où des questions se posent, notre travail, c'est d'enquêter, donc nous n'avions aucune raison de ne pas faire notre travail.
Un autre auditeur s'interroge. C'est curieux, ce genre d'enquête qui n'existe que pour tenter d'écarter toute possibilité de candidature d'une adversaire potentielle à Emmanuel Macron, car en effet, l'ambassadrice des pôles semble avoir des projets, c'est en tout cas ce que révélait l'enquête de Sylvain Tronchet.
Oui, mais alors là, c'est difficile de répondre, parce que le postulat de cette question, c'est de dire que si nous avons enquêté, c'est pour empêcher Madame Royal de pouvoir réaliser les projets qu'elle a. Or, c'est absolument pas ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est absolument pas le point de départ, ni l'objectif de notre enquête. Nous avons enquêté parce que nous pensions qu'effectivement, des questions se posaient autour de l'utilisation de l'argent public qui était faite par une femme publique, qui du reste est ambassadrice, donc haut fonctionnaire. Ça veut dire qu'on enquêterait plus sur Jean-Luc Mélenchon parce qu'il envisage de se présenter à la présidentielle de 2022. Ça veut dire que l'enquête qu'on a réalisée récemment sur Marine Le Pen, comme elle a des ambitions présidentielles, on n'aurait pas dû aller regarder ce qui se passait du côté du Front National et là aussi de l'utilisation pour le coup des assistants parlementaires européens. Ça veut dire qu'on ne devrait plus enquêter sur François Bayrou, ce que nous avons fait. Ça veut dire qu'on ne pourrait pas enquêter sur Emmanuel Macron parce que le président probablement a l'intention de se représenter. Non, je pense que notre travail, encore une fois, c'est d'enquêter sur des personnalités publiques et ces personnalités nous intéressent à partir du moment où soit la communication qu'elles développent est en contradiction avec les actes qu'elles posent, soit il y a des questions qui se posent autour de l'utilisation, encore une fois, de l'argent public, donc de l'argent des citoyens, donc de nos auditeurs.
Ségolène Royal est venue se défendre le mercredi 20 novembre dans la matinale de France Inter au micro de Léa Salamé. L'ancienne ministre de l'Environnement a parlé au sujet de Sylvain Tronchet d'insinuations calomnieuses. Elle envisageait un temps de porter plainte. Alors comment vous prémunissez-vous d'un éventuel procès en diffamation?
Alors, il y a plusieurs questions là, mais puisque Sylvain est là, le mieux c'est qu'il y réponde puisqu'il est mis en cause lui directement. Donc Sylvain, on va peut-être commencer par la première, insinuations calomnieuses.
C'est un concept avec lequel moi j'ai un peu de mal. En l'occurrence, il y a des questions qui ont été envoyées à Ségolène Royal. Elle a reçu ces questions comme une forme d'accusation. Or, c'est tout le contraire, précisément. Ce sont des questions très simples, très basiques, très factuelles que nous lui avons posées. Libre à elle, ensuite, d'interpréter le sens de ces questions comme elle le veut. Mais ce que nous attendons, nous, ce sont des réponses dans ces cas-là. Et en l'occurrence, nous n'avons pas eu de réponse. Ces questions ne sont pas des insinuations, encore une fois. Ce sont des éléments qui cherchent à éclaircir un certain nombre de faits.
Et poser des questions, c'est donner l'occasion aussi à la personne qui les reçoit d'y répondre et éventuellement de démentir des faits dont elle considérerait qu'ils sont faux. Hein. Alors après, il y a la question de la plainte éventuelle. Bon, là-dessus, tout le monde a le droit de porter plainte. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'instant T, on n'a strictement rien reçu. Hein. Voilà. Et comment on se prémunit d'un éventuel procès en diffamation ?
On a vraiment pour souci, enfin c'est la moindre des choses, hein, mais peut-être faut-il faire justement un petit peu de pédagogie, on a évidemment pour souci de respecter le cadre légal qui est le nôtre, et notamment en ce qui concerne les questions et la possibilité laissée à Ségolène Royal de s'exprimer. Il y a une jurisprudence très claire qu'on respecte à la lettre, on va même probablement au-delà. En l'occurrence, Ségolène Royal a été contactée 3 semaines avant la publication de l'enquête. Elle a reçu une première, puis une deuxième, puis une troisième demande d'interview. Ne répondant pas à nos demandes d'interview, nous lui avons donc envoyé derrière une liste de questions longues, précise, factuelle. Elle a reçu de mémoire une 30aine de questions numérotées qui portaient sur tout ce qui a été détaillé dans nos enquêtes. Ce qui fait que avant même la publication de nos enquêtes, Ségolène Royal était informée de ce que nous allions publier, de ce que nous allions sortir, et elle avait la possibilité d'y répondre, puisque encore une fois, les questions qui lui sont posées sont des questions simples auxquelles il suffit de répondre par oui, non, ou de donner des éléments factuels qui sont ceux que nous lui demandons. Elle a fait le choix de ne pas y répondre, du moins avant publication de l'enquête. Derrière, elle a crié à la calomnie, c'est son droit, encore une fois. Mais nous attendons des réponses factuelles, concrètes, avant publication, rien de plus.
Lors de son intervention dans la matinale, le 20 novembre, sur France Inter, elle vous a accusé de produire des faux témoignages. Y a-t-il des faux témoignages dans votre enquête ?
Évidemment non, il n'y a pas de faux témoignages. Ségolène Royal faisait référence à un témoignage anonyme. Soyons précis, lorsque nous traitons un témoignage anonyme, celui-ci ne saurait se suffire à avancer un fait concernant telle ou telle personne. Ce témoignage anonyme vient à l'appui d'autres éléments documentés, factuels, et celui auquel elle fait référence, c'est le cas, venait illustrer d'autres choses qui étaient tout à fait vérifiables par tout un chacun par ailleurs. Il s'agissait d'un festival de cinéma que sa fondation avait organisé et qui a tourné au fiasco. Ces éléments-là sont facilement vérifiables par n'importe qui. D'ailleurs, nous les avons publiés. Il se trouve qu'en plus, une personne sous couvert d'anonymat nous a raconté le continuum et les circonstances qui ont conduit à ce fiasco. Il nous apparaissait intéressant d'apporter ce témoignage, mais encore une fois, le témoignage anonyme en soi ne suffit pas à qualifier et à documenter les faits. Nous avons plus d'éléments que cela.
Alors la question du témoignage anonyme, c'est quelque chose qui revient souvent chez vous.
Oui, justement, je voulais finir avec ça, puisque la question est récurrente dans les messages des auditeurs. Pour quelles raisons anonymisez-vous les témoignages ?
Alors, on anonymise des témoignages, mais qui ne sont pas pour nous anonymes, et c'est ça qu'il faut vraiment préciser. Il ne s'agit pas de corbeaux qui, à un moment donné, auraient posté une lettre anonyme dont on ne saurait pas qui est celui qui l'a signée. Il s'agit de personnes dont nous avons vérifié les identités, qui sont parfaitement légitimes à nos yeux, qui ont des fonctions, souvent on dit un haut cadre, un ancien ingénieur de la société, enfin bon, etc. Cela dit, ce sont des gens qui parfois craignent pour leur travail, pour les pressions qu'ils pourraient éventuellement subir. Donc c'est quelque chose de très important pour nous, à la fois de concilier la préservation de nos sources et en même temps la qualité et la légitimité de l'information. Bien, merci Emmanuel Davy, on en reste là pour aujourd'hui.
On en reste là.
Et on se donne rendez-vous donc le mois prochain et tout au long donc de cette année 2020 qui commence.
Oui, et j'invite vraiment les auditeurs à nous écrire lorsqu'ils souhaitent réagir à vos enquêtes, poser des questions, et je me ferai un plaisir de les relayer auprès de l'équipe Secret d'Info.
Très bien, à très bientôt Emmanuel. C'est la fin de Secret d'Info, une émission préparée par Martin Broyer, réalisée par Christophe Imbert. La programmation musicale était signée Jean-Baptiste Audibert et à la technique, il y avait Philippe Duclos et Guillaume Roux. Dans quelques instants, Emmanuel Kérad vous emmènera au Maroc avant de recevoir l'écrivain Philippe Delerme. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.